Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le programme français sur la radio SBS. Bertrand Toukandamé pour vous accompagner ce dimanche 25 août. Pendant ce programme d'une heure que nous allons passer ensemble, nous allons rester sur un thème, le sport, notamment à travers deux films. Le premier est une comédie qui nous emmène dans l'univers du handicap mental et le second est un drame qui traite d'entraînement au tennis. Nous irons également à la rencontre d'une athlète talentueuse, médaillé d'or au JO de Paris. Et place à présent à la personnalité de la semaine, Valentine Taboureau revient sur la vie et la carrière d'une légende du cinéma français qui nous a quittés cette semaine.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
À l'étranger, on le surnommait le James Dean français. Alain Delon, charismatique ambassadeur de la France et du cinéma français, nous a quittés il y a tout juste une semaine. Valentine Taboureau revient avec nous sur les multiples facettes de l'acteur et sur son grand amour des chiens.
Bonjour, bonjour à tous. C'est un monstre sacré du cinéma français qui vient de s'éteindre. Alain Delon, immense acteur à la beauté magnétique et ravageuse, est décédé dimanche dernier 18 août dans sa maison de Douchy à l'âge de 88 ans. Ce sont ses trois enfants et son chien Loubo qui ont annoncé la nouvelle via un communiqué à l'AFP. S'en est suivi une pluie d'hommages en provenance du monde entier, depuis les États-Unis jusqu'au Japon où il était considéré comme un dieu. En France, évidemment, on le pleure aussi, l'Élysée affirmant qu'avec sa disparition, le pays perd tout simplement l'une de ses icônes universelles.
Avant de devenir la star qu'on connaît, il y a eu une jeunesse chaotique.
C'est le moins que l'on puisse dire. Il est né le 8 novembre 1935 à Sceaux dans une famille de la petite bourgeoisie, mais ses parents divorcent lorsqu'il a 4 ans, ce qui va le marquer toute sa vie. Il est confié d'abord à une nourrice, puis à une famille d'accueil avant d'être expédié en pension. L'école ne lui réussit absolument pas. Il est renvoyé de plusieurs établissements. Finalement, il multiplie les petits boulots et fait son service militaire au cours duquel il est envoyé en Indochine. C'est une expérience qui va le marquer puisqu'il garde de cette période une grande fascination pour l'esprit de corps, la discipline et les armes à feu. Ensuite, il est plongé dans le milieu interlope et fréquente gangsters et prostituées. Lui-même n'est d'ailleurs pas irréprochable puisqu'il est arrêté à plusieurs reprises pour deux petits larcins, y compris lorsqu'il était militaire.
Son premier rôle sérieux lui est offert par Yves Allégret.
C'est la femme du réalisateur Michel Cordoue, sa maîtresse qui le convainc de le faire tourner dans « Quand la femme s'en mêle ». Alors, Alain Delon n'a pas le premier rôle, mais il se fait remarquer. Peut-être d'ailleurs grâce à ce précieux conseil d'Yves Allégret. On écoute Alain Delon.
Il m'a dit « Alain, je ne veux pas que tu joues, je veux que tu sois toi ». C'est-à-dire que tu parles comme tu parles, que tu regardes comme tu regardes, que tu bouges comme tu bouges. N'essaie pas d'être qui que soit, sois toi. Et c'est ce que j'ai fait dans mon premier film et ça ne s'est jamais arrêté.
Il tourne ensuite dans plusieurs films, dont la fameuse série des Sissi. Mais la consécration lui vient vraiment avec Plein soleil, adaptation du roman de Patricia Highsmith. Sa carrière d'acteur s'envole. Au total, il tourne dans près de 90 films, essentiellement français et européens, qui réunissent 135 millions de spectateurs en salle. Vous avez évidemment certainement vos préférés. En voici quelques-uns des plus célèbres. Évidemment, Rocco et ses frères, La Tulipe Noire, Le Samouraï, La Piscine, Le Clan des Siciliens, Le Cercle Rouge, Un Flic. Il a souvent eu le rôle d'un homme beau, sombre et taiseux. Il a pourtant commencé dans des rôles plus légers et plus récemment, la jeune génération a pu en rire en le découvrant dans le rôle de César dans Astérix.
César a tout réussi, tout conquis. C'est un guépard. Un samouraï. Elle ne doit rien à personne. Ni à Roku, ni à ses frères, ni au clan des Siciliens. César est de la race des seigneurs.
Alain Delon a été acteur, mais pas que.
Il a notamment reçu la consécration ultime avec une palme d'honneur à Cannes en 2019 pour l'ensemble de sa carrière. Mais il a aussi enfilé le costume de producteur, de réalisateur et même de chanteur. Il a à son actif une dizaine de chansons, dont beaucoup en duo, une avec Shirley Bassey ou même Phyllis Nelson. Mais c'est évidemment ce tube dont on se souvient surtout, Parole, Parole avec Dalida.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Dalida et lui ont eu une liaison. Une parmi beaucoup d'autres.
On peut certainement dire qu'il était un homme à femme et ses conquêtes connues sont nombreuses. Évidemment, il a formé avec Romy Schneider un couple mythique qui symbolisait aussi le rapprochement entre la France et l'Allemagne juste après la guerre. Ensuite, il y a eu Nathalie Delon, la mère de son fils Anthony, et surtout Mireille Darc, son grand amour, avec qui il a vécu 15 ans. On peut aussi citer la chanteuse du Velvet Underground, Nico, avec qui il a une liaison dans les années 60 et dont le fils Harry Boulogne serait le fils non reconnu de l'acteur. Harry est décédé en 2023, mais sa fille a lancé une procédure en Suisse pour faire reconnaître la paternité d'Alain Delon, paternité toujours niée par ce dernier. Alain Delon a officiellement 3 enfants, Anthony, Anouchka et Alain Fabien, avec qui il n'a pas toujours eu des relations faciles et qui se sont d'ailleurs pas mal disputés entre eux. Il faut quand même rappeler que l'homme privé n'a pas toujours été commode. Patriarche colérique et amant à la gifle facile, c'est lui qui l'a reconnu dans la presse. Il avait aussi des positions sociétales jugées réactionnaires et des amitiés controversées avec l'extrême droite.
Il a été enterré hier, comme il le souhaitait, dans sa demeure de Douchy.
C'était son souhait, il a été exaucé. Surtout, il reposera pour l'éternité aux côtés de ses 50 chiens. Il faut dire que l'acteur a toujours été un ami de la cause animale. Il a été un fidèle soutien de la SPA et de la fondation de Brigitte Bardot, laquelle a écrit, en apprenant le décès d'Alain Delon, « Je perds un ami, un alter ego, un complice. Nous partageons les mêmes valeurs, les mêmes déceptions, le même amour des animaux. »
C'est avec mes chiens que je trouve une certaine sérénité, un certain calme, une certaine tranquillité.
Alain Delon laisse derrière lui son malinois de 10 ans, Loubo, qui ne sera finalement pas euthanasié pour être enterré aux côtés de son maître. C'était le souhait émis par ce dernier il y a quelques années dans la presse. Loubo restera finalement dans la maison et la famille Delon, c'est un dénouement heureux.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
C'était Intoxicated Man, une chanson de Serge Gainsbourg. Nous devons marquer une pause, puis en marge des Paralympiques de Paris, nous avons choisi de vous présenter ce reportage de RFI qui explore un des films les plus populaires de ces dernières années. Un petit truc en plus, il faut dire que les associations du secteur du handicap ont salué ce film, estimant qu'il offrait une vision plutôt réaliste et humaine du handicap mental. Une petite pierre bienvenue pour essayer d'améliorer la situation des personnes concernées. Pour en savoir plus, restez à l'écoute.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Après les Jeux Olympiques, Paris accueille les épreuves paralympiques du 28 août au 8 septembre. À quelques jours de l'événement, on se demande si la société prend davantage en compte les personnes handicapées. Après le succès inattendu du film Un petit truc en plus, son réalisateur Artus espère continuer l'œuvre pour faire évoluer le regard de la société sur les personnes en situation de handicap. Entretien avec le sociologue Philippe Terral, professeur à l'université Toulouse 3. Il dirige le centre de recherche sciences sociales, sport et corps. Il est avec Stéphane Geneste.
C'est le plus grand succès du cinéma français de ces 10 dernières années. Il s'agit du film Un petit truc en plus de l'humoriste et comédien Artus. Alors dans les grandes lignes, Un petit truc en plus, c'est l'histoire d'un père et de son fils, braqueur raté, qui pour fuir un casse se retrouve dans un camp de vacances pour personnes en situation de handicap mental. Le fils se fait passer pour handicapé, pour mieux se faire intégrer et passer incognito. Le père, lui, pour son accompagnateur. Et ça donne des scènes très décalées, évidemment. Plus de 10 millions d'entrées en France, 3 mois et demi après sa sortie. Au-delà de ces chiffres exceptionnels, le film offre à regarder différemment le handicap. Et on en parle justement avec vous, Philippe Terral, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue spécialiste sport et santé et professeur à l'université Toulouse 3. Alors ce film met en avant des personnes porteuses d'un handicap avec tendresse et bienveillance, ce qui explique d'ailleurs son succès. Est-ce que ça peut changer le regard sur la trisomie et le handicap mental ?
Oui, alors écoutez, pour certaines personnes, évidemment, les choses peuvent changer. Après, on peut pas effectivement généraliser. Déjà, il y a un certain nombre de personnes qui auront vu ce film ou pas, donc qui en auront entendu parler. Voilà, puis il faut quand même souligner en tant que sociologue que les mentalités ne se changent pas en une fois. C'est des actions répétées, c'est une ouverture répétée à ces mondes du handicap qui sont d'ailleurs très divers eux-mêmes.
Et justement, c'est par le cinéma qu'on peut faire évoluer ces mentalités.
Tout à fait, c'est un média comme d'autres, hein, comme tout un tas d'autres activités sociales, relationnelles, les associations, l'école, les entreprises, l'art, d'autres arts que le cinéma, ou même le sport dans lequel je travaille aussi est un lieu qui peut être un lieu d'intégration. Mais encore une fois, peut-être pas pour tout le monde et pas dans tous les contextes, parce que ce qu'on observe en tant que sociologue, c'est à la fois des effets d'ouverture à une diversité de cultures, mais aussi de repli sur soi, sur son milieu. Donc voilà, il faut aller chercher le plus grand nombre pour s'ouvrir à ça.
Vous voulez dire que c'est aussi un épiphénomène ? Ce n'est pas à vocation de long terme ?
Oh, pas forcément un épiphénomène, c'est une entrée, mais voyez, ça risque de uniquement les personnes ouvertes à ces questions, consommant du cinéma, tout le monde ne consomme pas du cinéma, voilà, vont être ouvertes à ça. Donc c'est un levier pour changer le regard, mais changer le regard plus largement prend un peu plus de temps et on doit multiplier les médias et les formes d'accès à ces handicaps.
Et pour autant, vous le disiez très justement, 10 millions de personnes l'ont vu, c'est pratiquement un Français sur 6. Il y a également le bouche à oreille, on en parle dans les médias, à la télévision, il y a des affiches. Ça aussi, ça joue dans l'esprit même inconscient des personnes qui ont été en rapport avec ce film, en relation avec ce film.
Oui, bien sûr, c'est tout à fait ça. Vous parliez de changement de regard. Un changement de regard, ça prend du temps, c'est des actions répétées, conscientes ou non conscientes, comme vous voulez le dire. Donc voilà, c'est faire de ce sujet un sujet qui finalement petit à petit devient banal et devient évident. Mais encore une fois, ça prend du temps. C'est pas un film qui peut tout gérer. Voilà, c'est une multiplication d'actions et de domaines différents qui peuvent ouvrir à cette intégration.
Artus, le réalisateur du film, a pris soin justement de faire un casting précis avec des personnes précises.
Des acteurs en situation de handicap, il y en a, mais je voulais pas des acteurs, je voulais des personnalités. Bon, il y a des gens qui nous ont dit clairement non, les gens ont pas envie de voir des handicapés au cinéma. Non, les gens, enfin voilà, on a eu des réponses assez surprenantes encore en 2024.
Et c'est par la comédie que les choses passent mieux, Philippe Terral.
Oui, alors c'est une forme, effectivement, on sait quand même que transformer le regard, transformer les positions, a beaucoup à faire avec la question des émotions, donc rire, mais être ému aussi, peut avoir beaucoup d'effets, donc la comédie, encore une fois, un média comme un autre, mais les émotions, oui, les émotions, par exemple, dans le sport aussi, sont des moments forts pour pouvoir aussi intégrer ces questions des personnes handicapées. Donc, c'est les émotions, surtout.
Et justement, vous m'avez devancé, ce sera ma question. Les Jeux paralympiques commencent dans 8 jours maintenant. Ça aussi, ça va jouer sur le regard qu'on a par rapport au handicap.
Oui, alors je vous ferai la même réponse, ça va jouer pour qui ? Est-ce qu'on aura des actions suffisamment répétées ? On a quand même cette question de la continuité de la dynamique JO avec les JO paralympiques, avec un calendrier moins favorable. J'espère que la couverture médiatique sera aussi forte. Donc voilà, on est tous aussi responsables de mettre ou pas de l'avant ces événements susceptibles de renforcer l'intégration. Mais bon, on peut espérer que dans la continuité de la dynamique JO, les Jeux Olympiques paralympiques bénéficient de tout cet engouement auquel on a pu assister. Et donc, ce sera effectivement favorable parmi d'autres médias à l'ouverture au handicap et à l'intégration.
Et parmi vos travaux, je rappelle que vous êtes sociologue, les Jeux paralympiques des éditions précédentes ont eu des conséquences, des externalités positives.
Oui, alors voilà, nous ce qu'on voit en tant que sociologue, hein, c'est pour certaines personnes, oui, on voit petit à petit grignoter une place de ces acteurs-là. Puis encore une fois, c'est pas que le sport. On a parlé de cinéma tout à l'heure. On pourrait parler du travail dans les écoles, les entreprises, les associations. Voilà, c'est un tout. Mais effectivement, des choses avancent. Hein, la question de l'intégration et de l'ouverture. Mais encore une fois, il y a un double mouvement. Il y a une ouverture et il y a potentiellement sur certains milieux un repli sur soi, une fermeture. Donc voilà, on peut pas non plus être sur quelque chose qui est aussi simple que voilà, un événement va transformer le regard de tout le monde.
Et qu'est-ce que vous voulez dire par le repli sur soi ?
Le repli sur soi, c'est des gens qui ont des préoccupations personnelles, de leur mode de vie, sur leur milieu. On le voit dans un certain nombre de votes récemment. C'est-à-dire que des gens sont inquiets du fait d'intégrer des personnes. On a le sujet de l'immigration, on peut avoir le sujet du handicap. Vous voyez, le repli sur soi, c'est quand même se préoccuper de contraintes fortes qui pèsent sur soi, pouvoir d'achat, situation parfois difficile de certaines personnes. Voilà, c'est plus difficile de s'ouvrir à l'extérieur et à la diversité dans ce cadre-là, ce qui peut aussi s'entendre.
Et on peut aussi également imaginer, à la lumière des événements que nous vivons, les Jeux paralympiques ou ce film Un petit truc en plus, ou même les années précédentes, hein, Intouchable avec l'acteur principal tétraplégique, ou La famille Bélier où la famille était sourde, un changement de représentation dans le cinéma, dans le sport, voilà, qui est une plus grande ouverture.
Oui, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que on va vers ça et je pense qu'il faut tous collectivement afficher ça, valoriser ça dans divers espaces, différents médias, différentes activités sociales. Voilà, mais s'assurer quand même qu'on ne touche pas toujours les mêmes qui sont quelque part acquis à la cause et oui, aller chercher ceux pour qui c'est moins connu, ça peut faire peur, ça peut inquiéter. Encore une fois, je le redis, ont d'autres préoccupations que ces questions-là, voire le voient comme de l'argent pris pour des causes qui ne les concernent pas. Donc, vous voyez, il faut quand même pas oublier le changement de regard. Il ne vaut que s'il est, s'il concerne tout le monde, quoi, et toute la société.
Et pour les pouvoirs publics, il y a évidemment des réflexes à prendre. Et comment, par exemple, faire face à cela, à ces situations de handicap? Je pense notamment, par exemple, pour les Jeux paralympiques. Les transports sont pas forcément très adaptés aux personnes en situation de handicap moteur. Voilà, il faut aussi réagir.
Oui, alors il y a des politiques publiques, hein, en ce sens-là, depuis assez longtemps, alors sûrement insuffisante pour les personnes et les associations en situation de handicap, mais on peut dire qu'il y a quand même un certain nombre d'avancées, notamment sur la thématique de l'accessibilité des bâtiments, des lieux. Voilà, bah, il faut encore voilà, pousser en ce sens-là, mais comme vous le dites, c'est des vraies politiques publiques, c'est des moyens, voilà, c'est de l'activité, du travail à produire pour ça.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
Nous allons marquer une pause en musique essentiellement et après la pause, nous retrouvons Jean-Noël Ducasse en conversation avec Leonardo Van Dale, réalisateur de Julie Keeps Quiet, un film belge sélectionné pour le Festival international du film de Melbourne. Mais avant cela, on te l'avait dit, une chanson des sages comme des sauvages.
On te l'avait dit, c'est la musique dans ta tête. On te l'avait dit, qui te fatigue et qui t'entête.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Le plaisir d'avoir Leonardo Van Dale, qui est le réalisateur de Julie Keeps Quiet. C'est le film belge présenté cette semaine au Melbourne International Film Festival. Bonjour et bienvenue à Melbourne.
Bonjour.
Avec ce film, Julie Keeps Quiet, vous abordez un sujet très complexe dans le monde des athlètes. Julie, c'est une joueuse de tennis avec la possibilité d'une belle carrière devant elle. Et puis, il y a son entraîneur, Jeremy, et elle est très proche de lui. Et puis, il y a le décès d'Aline, une autre joueuse de tennis qui remet tout en question dans le club. Et Julie se demande pourquoi Jeremy est suspendu de toutes les instances du club. Et les deux gardent le contact. Julie semble savoir quelque chose, mais garde le silence. Alors, sans trop dévoiler le reste, peut-être parler de ce scénario que vous avez écrit et les inspirations. Est-ce que le tennis, c'est un de vos sports favoris?
Oui, en fait, moi, j'aime beaucoup jouer de tennis et je voulais raconter cette histoire dans un monde avec un sport avec quoi j'ai un peu d'affinité, parce que je pense comme ça je pourrais aussi transmettre un peu d'amour un peu de passion, un peu d'espoir dans cette histoire assez obscure. Mais pour répondre à ta question, pour moi, en fait, Julie, elle sait très bien ce que s'est passé. Pour moi, c'est pas une qu'elle demande que, qu'est-ce que Jérémy a fait, parce qu'elle elle sait hyper bien, parce qu'elle elle a vécu la même chose. Mais pour moi, surtout, le film Julie Keeps Quiet, ou en français Julie C'était, c'est une histoire de, qui parle de la libération du parole. Et le chemin qu'on doit faire pour arriver là-bas. Parce qu'on a tout de silence parfois dans nous. Et c'est un trajet pour arriver à parler. Et ce n'est pas toujours très facile. Tu vois que parfois on oublie ça dans une société où nous sommes toujours encouragés, même parfois avec une certaine pression de parler. Parce que c'est obligatoire, c'est une responsabilité. Et moi, je voulais juste dire que, écoute, c'est pas si facile toujours. Parfois, ça, on a besoin de temps, et surtout quand nous sommes jeunes. Et voilà.
Parlons du casting et de votre choix de choisir, j'espère que je prononce son nom correctement,
Tessa van den Broek.
Van den Broek. Oui,
c'est pas grave. En fait, Tessa. Julie, en fait, et tous les autres jeunes, ils ont 15 ans, 6 ans, 16 ans. Et on a juste fait du casting en cherchant des joueurs de tennis. Et voilà, Tessa, c'est une joueuse de tennis. Elle joue sur très haut niveau et elle a montré le casting. Et je ne sais pas, elle avait juste... c'était Julie, quoi. Elle avait une certaine...
présence.
Oui, présence, une énergie hyper agréable. Elle était radiante et je disais, c'est quelqu'un comme ça qui doit jouer Julie, parce que c'est à nouveau, comme j'ai dit en avant, je cherchais quelqu'un qui était assez positif dans la vie pour en fait prendre cette comment on dit,
ce fardeau.
Oui, c'est this heaviness. Comment on dit ça en français?
Oui, ce poids lourd, ce fardeau.
Oui, c'est un rôle qui est assez lourd. Elle devait être assez forte pour, à nouveau, que pas seulement raconter l'histoire d'une victime, mais aussi de l'histoire d'une héroïne.
Et les autres interprètes que vous avez choisis dans le film, pour le rôle peut-être de Jérémy?
Laurent Caron, en fait, il était conseillé par les Frères Dardenne. Il a joué dans plusieurs films d'eux. Et je ne sais pas, il était juste... en fait, en vraie vie, il est hyper sympa, hyper cool, juste quelqu'un de super généreux, mais il sait très, très, très bien jouer aussi l'opposite, le contradictoire de lui, en fait, sur l'écran. Et on a aussi travaillé avec Claire Botson, qui a aussi joué dans Le Jeune Ahmed. Et puis, voilà, le film, c'est en fait bilingue.
Oui.
Parce que ça se trouve en place autour de Bruxelles, où moi aussi j'habite. Donc moi, je ne suis pas franco, mais je parle dans la vie quotidienne assez français. Et donc voilà, on a cherché un peu des comédiens...
qui étaient bilingues.
Pas forcément bilingues, mais un peu flamands et un peu wallons.
Ouais.
Et voilà, comme ça, il y a un peu un melting pot.
Est-ce qu'il y a eu des challenges lors du tournage du film?
Non.
Avec les deux langues? Non.
Non, parce que ça, c'est vraiment genre... chez nous, c'est comme ça. À Bruxelles,
c'est normal.
Voilà, c'est normal.
Ouais.
Mais pour moi, je n'étais pas au courant qu'il y a assez des gens qui parlent le français ici en Australie. Donc, je viens de découvrir ça, c'est super. C'est aussi un peu gênant parce qu'ils parlent mieux français que moi. pour eux, c'est chouette parce qu'en fait, ils regardent un film, ils peuvent aussi... comprendre cet aspect du film, l'aspect de langue, en fait, où que deux langues différentes se mêlent, et après tu vois qu'il y a aussi peut-être parfois une perte de communication grâce à ça, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations.
Alors, il faut signaler qu'à Cannes, vous aviez reçu deux récompenses de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire un mot là-dessus? Est-ce que vous étiez surpris?
Oui, bien sûr. Parce que Oui, dans une manière surtout parce que le film, c'est assez
dramatique.
Subtil, je pense. Que you hate it or you love it.
Mm-hmm.
Et voilà, donc chaque fois qu'il y a... pour moi, c'est toujours un surpris parce que moi, je pense, oui. Allez, c'est aussi mon mentalité un peu que je suis peut-être plutôt... Je pense, oui, peut-être ils ne vont pas aimer l'histoire parce que c'est très intime, c'est très personnel, c'est pas in your face. Donc voilà, être récompensé avec deux prix, c'était quand même pour moi une validation que j'ai fait des bons choix pour rester dans cette subtilité et essayer de raconter cette histoire très sensible avec beaucoup de nuances.
Et j'imagine que le film a été bien reçu aussi en Belgique et dans les pays ailleurs dans le monde.
Mm-hmm. Oui, allez, je pense oui. Je pense que le plus grand victoire pour nous, c'est qu'en fait, Naomi Osaka, la joueuse de Nice, a vu le film et a décidé de joindre notre équipe comme executive producer. Parce que pour elle, elle disait cette histoire, c'est tellement important que moi, je fais tout que je peux pour que le silence de ce Julie soit entendu. Donc pour moi, je pense que ça, c'est vraiment le plus grand victoire et ça a aussi aidé pour donner aller vraiment plus de visibilité grâce à ça que, voilà, que, on a eu des critiques dont The Variety, Hollywood Reporter, The Guardian qui étaient très 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 bien. Et ça aide, allez, maintenant, pour voilà, participer au festival, comme ici au MIF, ou plus tard, je vais au Toronto, pour TIFF. On était sélectionnés pour Sarajevo, pour Horizons en Pologne, ben, plein festival. Et voilà, c'est surtout pour moi, c'est très, très, très encourageux, parce que comme ça, le silence de... Julie va être visible et on peut parler de cette histoire, ce discours et surtout aussi nous poser la question comment on peut créer un monde qui est plus sécure pour Julie, parce que finalement un monde qui est moins dangereux pour Julie, c'est aussi un monde moins dangereux pour toi et moi.
Et là il y a eu déjà une projection au MIF. Est-ce que vous aviez eu le sentiment que le public a bien accepté le film lors de la première projection?
Pour moi, c'est toujours très difficile de dire ça parce que, comme je dis, que j'ai toujours un peu cette insécurité sur moi. Mais quand même, il y avait beaucoup de gens qui sont restés pour le Q&A. Il y avait beaucoup de questions très intéressantes. Donc oui, j'ai l'impression que...
Ça marche.
Voilà, que, surtout que les gens ont envie de parler de l'histoire, le silence de Julie, après voir le film. Et ça, pour moi, c'est important parce que ça, je pense que c'est la force de l'art, c'est qu'on peut, en fait, poser des questions et après s'engager dans un dialogue.
Parlons des frères Dardenne qui sont impliqués dans le film. C'est une première coopération pour vous, avec eux?
Mm-hmm. Oui. Ouais, c'est un rêve pour moi parce que voilà, ce sont mes mamie et papy. Et voilà, j'ai vraiment, genre, je pense que je suis aussi un produit de leur film. Je suis grandi avec ça. Mm-hmm. Ils ont, ça fait partie de mon éducation audiovisuelle. Donc avoir eux autour de moi comme, voilà,
comme mentor.
Tu imagines que ça. C'était déjà incroyable.
Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir un petit peu la sélection des films de la programmation de MIF? Vous en pensez quoi de notre sélection des films cette année?
Bah, il y avait plein de films super. Il y en a déjà que j'ai vu à Cannes parce que j'étais aussi en concours avec eux dans la semaine de la critique, comme Blue Sun Palace. J'espère que j'ai dit ça. Allez, juste. Simon at the Mountains et Flow, c'est aussi un film d'animation qui est avec moi dans le Bright Horizons, qui est génial. Après, ce soir, je vais regarder Good One. Hier, il y avait Planet Janet. Je suis très mauvais avec les titres pour l'instant parce qu'il y a tellement
c'est en anglais.
Voilà. Et voilà, il y avait plein d'autres films que je voudrais voir, mais malheureusement, Voilà, le temps passe vite et le jet lag aussi n'aide pas.
Et c'est un séjour très court, j'imagine. Vous aurez l'occasion de rester un petit peu en Australie?
Je pars déjà lundi, mais j'étais quand même ici pendant une semaine. Et voilà, je dois dire que le pays, c'est incroyable. C'est un best kept secret.
Down under.
Oui, mais c'est vraiment étonnant. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai appris chaque jour quelque chose de ce pays qui a... Voilà, c'est vraiment une melting pot du monde. Aujourd'hui, je viens de découvrir aussi le français qui existe ici aussi. Et voilà, c'est bizarre parce que c'est tellement loin de tout, mais en fait, tout est ici présent et ça donne envie de revenir.
Peut-on parler de vos projets d'avenir? Vous êtes sur quel projet en ce moment? Vous travaillez sur quel film, quel scénario?
Je ne sais.
Ou c'est un secret?
Oui, c'est-à-dire que chaque film, en fait, tu commences avec des questions et pendant le trajet, tu trouves des solutions, des réponses. Mais le trajet aussi donne des nouvelles questions. Et ça, c'est le début d'un nouveau film. Mais, et c'est très clair, les questions que j'en ai et avec quoi je veux travailler. Mais je ne sais pas déjà où on va terminer parce que je n'ai pas déjà trouvé vraiment de réponses. Donc c'est vraiment un nouveau discours que tu commences. Mais je dois dire que je pense que j'étais 4 ans avec Julie. Et de passer en cette 4 ans avec un personnage, c'était génial. Allez, parce que tu n'es jamais seul, en fait. Il y a toujours quelqu'un à côté de toi avec qui tu peux parler, avec qui, en fait, moi, je vais vraiment avec. J'étais vraiment avec elle dans un dialogue et j'ai appris beaucoup grâce à elle par avoir l'opportunité de regarder le monde. Comment on dit, to look through her eyes.
À travers ses yeux.
À travers ses yeux, c'est ça. Et voilà, maintenant il y a un nouveau personnage avec qui. Donc en fait, nous sommes à trois ici, à Melbourne. Julie, moi et un nouveau personnage. et c'est chouette.
Merci beaucoup d'être venu nous rendre visite.
Merci beaucoup.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Et c'était Kabili Forni, une chanson de bagarre, une chanson qui reflèterait la dualité entre la vie moderne et la révérence envers ses origines culturelles. Nous allons marquer une pause et après nous retrouvons la kayakiste franco-australienne Noémie Fox qui a remporté l'or en kayak cross lors des Jeux Olympiques de Paris. Elle s'est confiée à son retour de Paris à notre collègue Léo Roussel. Elle revient sur une expérience magique vécue en famille à Paris.
On a le plaisir aujourd'hui sur SBS French d'être avec une championne olympique, Noémie Fox, médaillée d'or à Paris pour l'Australie pour ses premiers Jeux olympiques en kayak cross. Noémie, toutes nos félicitations et bienvenue sur SBS French.
Merci, c'est bien de faire mon premier interview en français.
C'est vraiment la première, même en France, personne ne vous a interrogé en français?
Non, si, c'est vrai qu'à Paris, il y a eu quelques interviews, mais en Australie, c'est très rare. Du coup, le fait de parler français maintenant, j'ai l'impression que je suis toujours à Paris, je suis un peu décalée.
Vous n'avez rien perdu, vous avez eu l'occasion de pratiquer sans doute quand vous étiez en France pendant quelques mois. Vous me disiez avant l'interview, vous avez passé quelques mois en France, puis à Paris pour vous préparer?
Oui, je suis franco-australienne, du coup j'ai toujours le français, c'était la première langue que j'ai appris. En fait, à 3 ans, on a déménagé en Australie et ma mamie, elle m'appelle toujours tous les jours. Du coup, je pratique mon français tous les jours. Après, à Paris, forcément, c'était spécial d'être en France et de faire les Jeux Olympiques en France, de comprendre le speaker et de parler français tous les jours et de surprendre un peu tous les bénévoles en tenue australienne mais avec l'accent français. Mais c'est vrai qu'en Australie, des fois, j'ai du mal à reprendre mon français dans ma tête. Des fois, il y a tout qui s'en mêle et c'est un peu le franglish dans notre famille. On peut pas finir une phrase en anglais ou en français, c'est bien mélangé.
Alors, ma première question, ça va être comment allez-vous ? On imagine que votre emploi du temps, il a été assez chargé ces dernières heures depuis votre retour à Sydney.
Oui et non. Hier, j'ai passé la journée à juste dormir toute seule et je n'étais pas très sollicitée et ça m'a fait du bien. Mais c'est vrai que la vie change un petit peu quand on devient champion ou championne olympique. Mais en même temps, hier, je suis aussi allée à mon entraînement le matin à 7h au stade de Deauville à Penrith, là où on s'entraîne. Et j'avais l'impression que j'ai eu un moment où je me suis dit, mais est-ce que c'était vrai? Est-ce que j'ai vraiment gagné ou j'avais l'impression de juste retourner à ma vie normale et que c'était tout un rêve? Mais c'est vrai que là, c'est juste tellement beau et spécial de partager avec tout le monde et d'être sollicité comme ça. Du coup, c'est un plaisir de partager l'histoire, de partager la gagne et l'expérience de Paris, parce que c'est vrai qu'on a vécu un moment mais magique et magnifique, et c'est dur de se remettre, retourner un peu à la vie quotidienne.
Oui, c'est ce que j'allais vous poser comme question. 10 jours après votre titre olympique, quelques jours seulement après la fin des JO, comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous avez commencé à réaliser ce que vous avez accompli? Et finalement, est-ce que vous êtes redescendu un peu de votre petit nuage?
Je pense que je suis toujours dans mon petit nuage, mais c'est vrai que rentrer en Australie, ça a concrétisé un petit peu l'affaire et c'était vraiment spécial de partager ça avec tous les Australiens. J'étais un peu éloignée de tout et je savais pas à quel point ça avait impacté plein de gens et juste de voir des gens un peu dans la rue, ils m'arrêtent, ils me disent « Ah, j'ai regardé ta course » et ça me touche beaucoup et c'est un petit choc en fait. Du coup, je suis comme toujours un peu déphasée et décalée, mais petit à petit, je retombe un peu sur terre et c'est vrai que j'ai toujours la médaille à côté de moi pour me rappeler que c'est vrai et que c'est tout le travail qui a payé au bon moment et que c'est 15 ans de travail, de rêve et de... Ouais, c'est juste magnifique de décrocher ça et décrocher ça à Paris et en France.
Oui, vous le disiez, cette médaille, c'est finalement un long chemin. Le parcours, il a été très long pour en arriver ici. Vous partiez finalement même en position d'outsider pour ces Jeux. Vous vous attendiez peut-être pas à faire une médaille et encore peut-être moins à accéder à l'or.
Mon but, c'était vraiment de me qualifier aux Jeux Olympiques et même la qualification, ça a été très compliqué. Il y avait que 3 places. C'était une course internationale où il y avait la championne du monde, vice-championne du monde, championne d'Europe. Du coup, c'était une course très, très compliquée et très dure, mais on a tout donné et j'ai décroché le quota avec une autre Française, Angèle Hugues. Et du coup, j'étais juste contente d'être au jeu et de profiter à fond. Je me suis dit, mais on sait pas quand ça va être ta prochaine opportunité. C'est Paris, il faut juste vivre le truc à fond et c'est ce que j'ai fait. Et je me suis dit, il faut pas être stressé du fait que moi je suis que là pour ça et que d'autres filles elles font plusieurs catégories. C'est une opportunité. Au moins quand ça viendra à mes propres courses, moi je vais être plein d'énergie, les batteries chargées, elles vont toutes être fatiguées et c'est un peu le cas. Et du coup, de partager le... En fait, aussi, je me suis dit que j'ai battu toutes les filles, du coup, pourquoi pas moi? Et c'était un peu la même mentalité pour le quota. Il va y avoir 3 quotas pour les Jeux, pourquoi pas toi? Et pour les Jeux Olympiques, c'était pareil. Je suis vraiment restée dans ma course, mais je me suis toujours dit, la championne olympique, peu importe qui ça va être, tu l'as déjà battu une seule fois. Du coup, c'est possible que ça soit toi. C'est possible de décrocher un podium. Et j'ai jamais perdu l'espoir. Et c'est vraiment émouvant de partager ça avec Angèle, vice-championne olympique, du coup, parce qu'on a vécu nos courses à Prague au TQO ensemble. Et du coup, de partager le podium olympique en tant que une des seules athlètes uniquement kayak cross, c'était vraiment émouvant.
Durant les séries qui ont mené à votre titre, vous avez également dû battre votre sœur. Ça a dû être assez spécial aussi.
C'était assez dur. On voulait pas du tout se rencontrer aussitôt dans le programme et on avait l'impression que c'était un peu les médias qui nous ont rendu cette chose-là, mais c'était assez compliqué. Après, je voulais pas du tout qu'elle soit la personne qui me sorte du jeu et je voulais pas non plus être la personne qui la sort du jeu. Du coup, on avait toutes les deux un peu peur, mais après, à la fin de la journée, on s'est dit, mais on est des athlètes individuels, il faut pas du tout avoir peur de passer devant ou de se battre. Et en fait, moi, je suis bien partie. Elle est restée coincée. Elle a pas pu me rattraper. Elle a pas pu rattraper celle qui était deuxième aussi. Du coup, c'était dur de pas passer toutes les deux.
Alors, comment on laisse de côté l'aspect familial sur une compétition comme ça?
Je sais pas. En fait, pour moi, le K-Cross, je savais que si on était ensemble, j'avais un petit peu peur parce que je me suis dit, j'ai peur que l'instinct, ça soit « Ah non, n'attaque pas, c'est ta sœur ». Du coup, c'est pour ça que je voulais vraiment pas être avec elle. Je voulais pas avoir des regrets de ne pas avoir fait ma propre course ou avoir bien attaqué comme il faut aux Jeux Olympiques. Mais après, à la fin, c'était tellement magique parce qu'elle m'a dit « Vas-y, fonce, je t'encourage ». Et elle m'a encouragée à fond et on s'est tellement entraînés ensemble. En tant que sœur, compétitrice et collègue aussi de travail dans la même équipe. Mais c'est une relation incroyable. Je suis tellement fière de ce qu'on a créé, ce qu'on a vécu ensemble et à quel point on se soutient. Et je me suis vraiment permise de vivre toutes les émotions de sa course, même si c'était une semaine avant les miennes. Je me suis dit, mais il faut vivre ces émotions aux Jeux Olympiques. Et du coup, quand elle a gagné, c'était beaucoup de larmes, beaucoup de fierté. Et après, elle a regagné, pareil, beaucoup de larmes, beaucoup de fierté. Et après, pour moi, c'était pareil pour elle. Du coup, c'était vraiment incroyable de partager ça ensemble. Et c'est dur de se dire qu'on a réussi à tout gagner, que c'était à Paris. C'est vraiment, en fait, on a l'impression que c'est fake, vu que c'est tellement bien écrit. Et ouais, c'est juste tout simplement des moments magiques qu'on va se rappeler à vie.
Et au-delà de la présence de votre sœur, il y avait également toute votre famille, votre maman, qui elle-même avait été médaillée de bronze aux JO d'Atlanta en 1996. Quelle a été, vous, votre sensation quand vous avez franchi la ligne vis-à-vis de vos proches?
Beaucoup d'émotions, et c'est très dur de décrire les émotions. Je pense qu'il n'y a tout simplement pas de mots pour décrire cette fierté, cette joie, ce soulagement. Et de partager ça avec eux... Le fait qu'ils soient là, c'est incroyable parce que c'est vraiment, justement, c'est très dur de décrire l'expérience. Mais les gens qui sont là, ils l'ont vécu aussi. Et du coup, on n'a pas besoin de décrire. Ils ont tout compris. Ils sont tellement investis dans notre jeunesse. Ils ont vraiment essayé de transmettre cette passion. Ils nous ont jamais forcés, mais il y a eu le déclic. C'est un sport de famille, de passion. On a tellement de la chance d'avoir eu une jeunesse à côté de la rivière, avec même mon papy. Moi, j'ai commencé à Marseille dans mon club de kayak, et c'est lui qui nous a transmis aussi la passion du sport. Et mes parents, ils m'ont jamais forcé, mais il y avait toujours un petit kayak quand on était en vacances. Et du coup, pour eux, c'était pas « Ah ben nous, on n'a jamais gagné une médaille d'or, c'est à vous de le faire ». C'était vraiment, ils voulaient juste qu'on soit toutes les deux au jeu et qu'on se libère, qu'on fasse notre course. Et le fait qu'on a fait ça, c'était pour eux une immense fierté aussi et beaucoup d'émotions.
Alors on le répète, vous étiez devant un public français, c'est un pays que vous connaissiez bien. Vous avez le sentiment d'avoir été un petit peu également porté ou encouragé par ce public français, même si il y avait Angèle Hugues, donc qui termine deuxième derrière vous.
Oui, en fait, je me suis dit, déjà, ils m'ont encouragée en demi-finale quand il n'y avait pas de Française, mais même juste une fierté d'être en finale avec Angèle et de sentir le public français et à quel point ils l'encourageaient, et ils encourageaient le sport, à quel point ils étaient à fond derrière tout le monde. Il n'y avait pas de méchanceté, on n'encourage pas l'Australie, c'était vraiment juste, ils encourageaient tout le monde, mais forcément, Angèle... en plus, j'avais beaucoup de supporters dans les tribunes et beaucoup de Français qui m'encourageaient aussi et beaucoup de familles. Et du coup, c'était un buzz, c'était une énergie. Et même si c'était pas pour moi, je l'ai pris comme si c'était pour moi. Et c'est vraiment une immense fierté de partager ça avec la foule parce que je pense qu'on ne va jamais revivre un public pareil. Et on a tellement... j'ai tout saisi, j'ai tout avalé et je quitte Paris avec des souvenirs, des émotions très intenses.
Alors justement, ces Jeux de Paris, dans la capitale française, beaucoup affirment que c'est l'une des plus belles éditions de l'histoire des Jeux Olympiques. Comment vous les avez vécues au niveau de l'ambiance et de l'organisation? Quel retour vous pouvez nous faire là-dessus?
Pour moi, c'est juste tout simplement incroyable. Il n'y a pas de défauts, il n'y a pas de mauvais souvenirs, il n'y a pas de... Je pense que tout le monde avait un peu peur au début. Tout le monde se disait, on ne sait pas comment ça va se passer, il y aura des manifs, les Français ils font que râler. Mais finalement, c'était un spectacle. Il y a tout le monde qui était à fond. C'était magnifique de partager, d'intégrer la ville de Paris, de faire la cérémonie d'ouverture, même s'il pleuvait des cordes et on était trempés, et de voir la Tour Eiffel, de faire le Parc des Champions. Ça, c'est un moment qui m'a marqué et qui me restera à vie. Et là, je suis tellement reconnaissante pour l'Orga d'organiser un événement pareil. Et c'était un défilé avec tous les médaillés de notre sport devant 13 000 personnes, devant la Tour Eiffel, avec notre petit morceau de la Tour Eiffel autour de notre cou. Et vraiment, je me dis, mais ça peut pas être plus magique que ces Jeux de Paris. Je sais pas comment on peut mieux faire, on peut mieux espérer. C'est vraiment, c'est des Jeux incroyables. Et je peux que remercier Tony Estanguet d'avoir non seulement insisté d'intégrer notre sport de kayak-cross dans le programme olympique, mais aussi d'avoir une vision incroyable et d'avoir foncé. Et on était tous derrière à le suivre. Et c'est vraiment, ouais, c'est magique. Et c'est, je sais pas comment je me remets après avoir vécu un événement pareil.
Alors justement, comment vous vous remettez? Il y a eu un retour à Sydney où vous avez été accueilli par une délégation australienne, aussi avec l'ambassadeur français à l'aéroport. Vous vous attendiez à avoir ce comité d'accueil à votre arrivée. Et est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger quelques mots avec l'ambassadeur et le Premier ministre australien?
Que avec le Premier ministre, malheureusement, mais je m'attendais à ça, parce qu'en 2004, moi, j'ai fait le Welcome Home, et c'était magique. J'ai vu Ian Thorpe, j'ai vu tous les autres athlètes, et du coup, de vivre ça pour moi, cette fois-ci, en tant qu'athlète, c'était vraiment magique, et c'est un super beau moment de partage avec les autres Australiens. Et c'était la première fois qu'on a qu'on a réalisé à quel point les Australiens, ils étaient à fond derrière nous. Quand on était à Paris, qu'ils étaient à fond à 3 heures du matin, toute la nuit. Et du coup, ouais, c'était un beau moment de partage avec tout le monde.
Dernière question, ça va être quoi votre programme à partir de maintenant pour les prochaines semaines? Peut-être prendre un petit peu de temps pour vous, ou vous en avez parlé au début de l'interview, retour à l'entraînement directement?
Ben, j'ai de la chance d'aimer mon sport, d'adorer ce que je fais, et du coup, ouais, hier, je me suis, j'ai pas pu résister à un petit entraînement sur l'eau vive, mais petit à petit, retour à l'entraînement et les Coupes du Monde, mi-septembre et fin septembre en Espagne et en Italie, du coup, je retourne en Europe. Et après, je rentre en France en décembre pour fêter Noël et les fêtes avec ma famille à Marseille. Et je vais faire un petit peu de ski. Du coup, j'ai vraiment hâte de rentrer en Europe aussi.
Eh bien, merci Noémie d'avoir été avec nous sur SBS French. Et encore bravo pour cette médaille d'or aux Jeux Olympiques.
Merci beaucoup.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Avec ce morceau, Il fait chaud, écrit et interprété par Corinne, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis ce dimanche après-midi. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour notre prochaine émission en français sur SBS Audio. Bon après-midi et bonne fin de semaine.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.